Et donc, Ornica.
Quoi? Qui ça? Qui tu dis? Mais c'est qui?
Mais qui est donc Ornicar? La découverte des rues du Havre avec Jeanne Esther.
C'est qui Ornicar?
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une rue, que dis-je, un boulevard qui porte le nom d'un homme, d'un roi, qui a été le fondateur du Havre de Grâce en 1517. Je vais vous parler bien évidemment du boulevard François Ier. Ce boulevard est une des artères du Havre, c'est là que se trouve la cathédrale Saint-Joseph, un des joyaux du patrimoine havrais construit par Auguste Perret. Lorsque vous marchez avenue Foch, juste avant d'arriver à la plage, vous traversez un boulevard et ce boulevard n'est autre que le boulevard François Ier. Né en 1494, François d'Orléans n'est à l'origine pas appelé à régner. Mais Louis XII, ne parvenant pas à avoir un héritier masculin, il se tournera vers François, son cousin, qu'il mariera à sa fille Claude de Bretagne en 1515. C'est la même année, en janvier, que François Ier est couronné roi de France. Son règne sera long puisqu'il durera 32 ans. 1515, c'est sûr, ça vous dit quelque chose. Mais oui, la bataille de Marignan! Ne cherchez pas Marignan ni Marignane en Italie, ça n'existe pas. En effet, la ville s'appelle Melegnano en italien. Alors, qu'est-ce que cette bataille et qu'est-ce que François Ier vient y faire? Il faut rappeler tout d'abord que François Ier est un roi à la fois guerrier, amateur d'art et bâtisseur. C'est le roi qui symbolise la Renaissance à la française. François Ier poursuit la bataille de ses aînés, à savoir les guerres d'Italie. En effet, son arrière-grand-mère maternelle n'est autre que Valentina Visconti et François Ier revendique son droit sur le duché de Milan. Car oui, il faut savoir que l'Italie, à cette époque, n'est pas un pays. L'Italie, au XVIe siècle, c'est une addition de petites républiques indépendantes, la République de Venise, la République de Florence, etc. L'Italie ne deviendra un pays unifié qu'en 1861 grâce au fameux général Garibaldi. Mais pour l'heure, il y a une grande bataille dans toute l'Europe pour occuper le territoire italien, et c'est ce qui conduira à la bataille de Marignan que François Ier gagnera battant les troupes suisses victorieusement. Cependant, sur son chemin, il se frottera à l'empereur espagnol Charles Quint, bien décidé lui aussi à asseoir son pouvoir en Italie, et c'est ainsi qu'en 1525, François Ier perd la bataille de Pavie, est fait prisonnier par l'empereur, qui le relâchera contre ses deux fils et une énorme rançon. François Ier ne fait pas que la guerre, c'est aussi un amoureux des arts et il fait venir à sa cour de nombreux artistes italiens comme Benvenuto Cellini ou encore un certain Leonardo da Vinci, qui arrivera en France en 1516 et y restera jusqu'à sa mort en 1519. C'est ainsi que certains des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard, parmi lesquels la Joconde ou encore la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne, entreront en possession de la France et se trouvent aujourd'hui encore au Louvre. Au Louvre, on peut également voir plusieurs portraits de François Ier, dont un de Titien, mais le plus connu est sans doute celui de Jean Clouet, où on y voit le roi de face, richement vêtu d'un manteau d'hermine. Son nez proéminent dans son visage d'albâtre, il nous lance un regard malicieux. Si ce portrait est si connu, je suis sûre que vous le connaissez, c'est parce que longtemps, peut-être aujourd'hui encore, c'est celui qu'on voyait dans les livres d'histoire. François Ier est enfin un roi bâtisseur, puisque sous son règne, pas moins de 7 châteaux ont été construits ou remaniés, dont le Louvre. Parmi ces châteaux, on peut évidemment citer Chambord, qui fête cette année ses 500 ans. Pour l'occasion, de nombreuses installations et des expositions ont été programmées. Si vous ne savez pas où aller cet été, pourquoi ne pas visiter ce merveilleux château qui compte 426 pièces et 77 escaliers? Mais je vous vois venir, François Ier n'a pas bâti que des châteaux, non, il a aussi fait construire le port du Havre. Nous sommes en 1517 et François Ier regarde vers le nord, vers les Anglais évidemment, mais aussi les Amériques. Afin de défendre la France des perfides Anglois et d'avoir un port qui permette d'aller explorer le Nouveau Monde, François Ier ordonne la construction de Franciscopolis, du grec polis la ville et Francisco François, donc littéralement la ville de François. En effet, le port d'Harfleur est en train de s'ensabler et il faut un nouveau port pour protéger la Seine. Ce sera finalement le nom du Havre de Grâce qui sera choisi pour ce port puisqu'une chapelle existait sur le site de construction. L'amiral Duchillou exécuta les ordres et créa en plus du port une ville. Afin d'attirer les gens dans cette ville, François Ier concéda de nombreuses ristournes fiscales, des exemptions de taille et d'impôts pendant 10 ans, mais également le privilège du franc-salais, c'est-à-dire le droit de venir prendre le sel à la gabelle sans en payer la taxe. En 1520, en août, François Ier vient inaugurer la ville du Havre et en 1523, c'est du Havre que le bâtiment La Dauphine partira avec à son bord le Florentin Giovanni da Verrazzano, chargé par François Ier d'aller explorer l'Amérique du Nord. Plus tard, C'est Jacques Cartier qui prendra le relais, il fondera la Nouvelle-France et le Canada, et malgré un échec de gouvernance, il ouvrira la voie à d'autres explorateurs, notamment à un certain Samuel Champlain. Le bon roi François meurt en 1547 à Rambouillet, après une vie bien remplie. Il survit presque 10 ans à une fistule vésico-anale, comprendre une infection des testicules et du postérieur. Il est enterré avec sa femme et sa mère à la basilique Saint-Denis. Voilà, vous savez tout ou presque sur François Ier et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des rues du Havre. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de votre radio locale.